Vous écoutez Radio Impala émettant sur la bande de 16 mètres sur la fréquence de 17 540 kHz. Nos émissions sont diffusées au Rwanda de 19h à 20h. Nous émettons également dans les autres pays de la région des Grands Lacs. Radio Impala diffuse l'information concernant le Rwanda, la région des Grands Lacs, l'Afrique et le reste du monde. Il diffuse également des émissions destinées à mobiliser la population afin qu'elle conduise ses efforts pour construire un pays démocratique, égalitaire, non discriminatoire, garantissant la paix et la sécurité à chaque Rwandais, jeunesse, gente féminine, hommes et femmes politiques qui luttent pour les droits de l'homme. Vous tous, membres de différentes associations, religieux, agriculteurs-éleveurs, artisans, indépendants de tout genre, et vous tous qui avez des idées pour développer notre pays, Radio Impala est la vôtre.
Elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain. Je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens.
Amis auditrices et auditeurs de Radio Impara, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 26 novembre 2014. Aujourd'hui, nous allons vous donner une émission en langue française pour la région des Grands Lacs et les autres pays francophones du monde. Ce n'est pas seulement les pays, même les personnes francophones qui sont partout dans le monde et surtout dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, ce mercredi, nous allons vous donner une émission en français. Nous allons vous donner la musique. Et bien sûr que dans la musique, nous allons vous donner quelques émissions. Aujourd'hui, le 26 novembre 2014, il y a un grand événement qui a eu lieu à Strasbourg, donc au Parlement européen, où le docteur Denis Mukwege a reçu le prix Sakharov. Le prix Sakharov, c'est le prix qui a été décerné, donc attribué par l'Union européenne à M. le docteur Denis Mukwege de la République démocratique du Congo. Nous allons vous passer donc un discours qu'il a prononcé, une partie de son, de son discours qu'il a prononcé aujourd'hui dans l'hémicycle des Européens à Strasbourg en France aujourd'hui, là où il a reçu le prix Sakharov 2014. Donc là, dans cette émission aujourd'hui de Radio Impara, nous allons vous faire écouter donc une partie du discours de monsieur Dr Denis Mukwege quand il a reçu ce prix Sakharov 2014. Après, nous allons vous faire écouter un entretien, donc c'est un entretien qu'il a eu avec les journalistes en Belgique sur sa situation. Il répond à pas mal de questions qu'on se pose sur sa façon de travailler, comment il a pu recevoir ce prix, donc le prix qui est très ambitieux, donc que tout le monde cherche à voir. Après, nous allons voir les événements qui se passent aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une affaire d'émeute. Il y a la population qui se révolte dans la ville de Ferguson. Il y a aussi dans les autres villes, New York, Washington et même Chicago, où la population se lance dans la rue pour manifester contre le racisme qui se manifeste surtout aux États-Unis. Alors là, nous allons voir une émission qui a été préparée par la télévision France 24 qui traite les questions des événements de Ferguson, donc l'affaire Ferguson. On va vous faire écouter tout ça, bien sûr, avec la musique. Donc, nous vous remercions d'avoir écouté, de bien avoir suivi les émissions de Radio Impara qui émettent sur 16 mètres, sur la bande de 16 mètres. Nous vous remercions de bien écouter donc les émissions de Radio Impara.
On va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie. Je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, c'est pourquoi je crie.
Aujourd'hui, mercredi le 26 novembre 2014, dans l'hémicycle de l'os député à Strasbourg, M. le Dr Denis Mukwege de la République démocratique du Congo, de la ville de Bukavu, à l'est du Congo, donc dans la province du Sud Kivu, il a reçu le prix Sakharov 2014. Et quand il a reçu ce prix, il a été ovationné, il a été applaudi par les députés européens qui écoutaient son discours. Je vais vous faire écouter une partie de son discours qui a été prononcé par Denis Mukwege à l'occasion de la prise de ce prix de prix Sakharov 2014 aujourd'hui mercredi 26 novembre 2014 dans l'hémicycle des députés à Strasbourg. Écoutez monsieur Denis Mukwege.
Monsieur le président, nous avons pris du temps et d'énergie à réparer les conséquences de la violence. Il est temps de s'occuper des causes. Des milliers de témoignages des victimes montrent que le peuple congolais a soif de justice, de paix et aspire au changement. Il y a urgence à agir. Les solutions existent et exigent une réelle volonté politique. Nous sommes en un moment critique. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé à Addis Abeba en 2013 ne peut rester une simple feuille de papier. En tant que partenaire historique et premier contributeur de l'aide, nous appelons l'Union européenne et ses États membres à revitaliser la mise en œuvre de cet accord que nous appelons volontiers l'accord de l'espoir, et d'utiliser tous les leviers économiques, financiers, mais aussi politiques et diplomatiques pour contribuer une fois pour toutes à la résolution des conflits dans le Grand Lac. République démocratique du Congo, la consolidation de l'État et le rétablissement de la sécurité à l'Est constituent la priorité des priorités. La réforme du secteur de la sécurité est l'une des plus importantes réformes institutionnelles et au cœur des efforts de mise en œuvre de la responsabilité primaire de l'État congolais de protéger les civils. La justice doit être également placée au cœur du processus de paix et lutter contre l'impunité des crimes les plus graves, y compris les crimes de violence sexuelle, doit être renforcée. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme, sans réparation pour les survivantes de viols et les victimes, sans assainissement de la fonction publique incluant un vetting des forces et de sécurité, et sans mécanisme d'établissement de la vérité pour promouvoir la réconciliation. Monsieur le Président, le droit de l'homme constitue non seulement une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, mais aussi l'un des objectifs qui inspire ses relations extérieures avec la promotion de la paix et du développement et le renforcement de la démocratie et de l'état des droits. À notre humble avis et estime, il s'agit de la réelle plus-value de l'Union par rapport à d'autres partenaires internationaux. Mais la réelle politique illustre bien souvent que les intérêts géostratégiques et économiques priment sur le respect de la protection des droits de l'homme. Le projet de règlement européen de la Commission pour un approvisionnement responsable en minerais, qui doit être examiné devant votre Assemblée, devrait intégrer une dimension contraignante et viser aussi bien les produits finis ici en Occident que les matières premières à l'état brut. En Afrique, nous exprimons ici les souhaits que chacun veille à assurer davantage de cohérence entre les politiques économiques et les droits et le respect des droits de l'homme, et à placer la dignité humaine au centre des préoccupations économiques et financières. Notre pays est plein de potentiel. Et avec un commerce plus responsable et transparent, le Congo a la capacité d'un développement endogène. Grâce à ses ressources naturelles, mais avant tout ses ressources humaines, qui ne peuvent aujourd'hui être exploitées pour le bénéfice de tous dans un contexte de ni paix ni guerre. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Nous les dédions donc à toutes les survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Nous sommes convaincus que le changement viendra par ces femmes courageuses, déterminées et dignes qui sont notre source d'inspiration au quotidien. Nous dédions également ces prix à tous les défenseurs des droits de l'homme qui militent jour après jour, souvent dans des conditions difficiles et loin des projecteurs, pour favoriser une culture de paix, aider les victimes à réclamer leurs droits et à rendre leurs institutions plus redevables. Nous tenons enfin à saluer ici le professionnalisme et le dévouement de tout le personnel des PANZI, ainsi que tous nos partenaires qui ont aidé pour réaliser notre travail, et je pense particulièrement à l'Agence humanitaire européenne ECHO, qui nous soutient depuis 10 ans. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Ensemble, décideurs politiques, acteurs de la société civile et citoyens, hommes et femmes, nous devons fixer une ligne rouge contre l'utilisation du viol comme arme de guerre et construire un avenir meilleur pour offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un cadre propice à leur épanouissement et permettre à tous ceux qui ont trop souffert d'envisager le futur dans une liberté plus grande. Monsieur le Président, chers eurodéputés, permettez-moi de conclure en m'adressant de votre honorable hémicycle aux citoyens de mon pays, qui sont nombreux ici, ont voulu bien m'accompagner. Chers compatriotes, notre nation, la République démocratique du Congo, nous appartient. Ses ressources naturelles et humaines, ses institutions, son destin relèvent tous de notre responsabilité. C'est à nous, le peuple congolais, de façonner nos lois, notre justice et notre gouvernement pour servir nos intérêts à tous et pas seulement ceux de certains. Le prix Sakharov que nous recevons du Parlement européen est le vôtre et il est le symbole de la liberté de penser. Un droit qui nous a été retiré, un droit auquel, suite à la terreur et l'oppression, nous semblons parfois avoir renoncé. Ce droit nous est acquis et le peuple européen, à travers leurs représentants, nous tendent la main aujourd'hui, la main pour le recouvrer. Ils veulent nous appuyer dans notre lutte pour la liberté, la paix, la justice et le progrès. Aujourd'hui, tout haut et devant le monde entier, l'Europe nous exprime sa solidarité. Elle veut marcher avec nous dans notre quête pour la restauration d'une vie congolaise digne. Unissons-nous et marchons avec elle, afin qu'une fois pour toutes, la paix et la justice soient restaurées au Congo et que nous puissions aspirer à un futur meilleur. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Je vous remercie.
Vous l'avez entendu, Denis Mukwege, extrêmement ému. Ce chirurgien gynécologue congolais qui reçoit aujourd'hui le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit. Une chose que le docteur Mukwege n'a pas dite, c'est qu'il a été l'objet d'une tentative d'assassinat il y a 2 ans et il s'est exilé en Belgique et puis au bout de 2 mois et demi, eh bien, il est rentré. Il est rentré en République démocratique du Congo parce que les femmes s'étaient mobilisées, parce qu'elles réclamaient son retour. C'est dire le sens du don de soi, le sens de l'engagement de ce monsieur. Et aujourd'hui, il vit retranché avec sa famille dans son hôpital même. Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014. Remise du prix Sakharov 2014 à ce gynécologue congolais qui opère à longueur de journée depuis 15 ans maintenant des femmes victimes de viols, de sévices sexuels utilisées comme armes de guerre. Il l'a dit, vous l'avez entendu, par des seigneurs de guerre, par des bandes armées dans une région de l'est de la République démocratique du Congo qui est en proie à des violences depuis plus de 20 ans.
On passe par ici.
Frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos
différence.
Nous sommes des êtres humains.
Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter.
Je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer.
Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences,
nous sommes des êtres humains.
Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter.
De qui s'appelle Mon frère congolais qui a été chanté par donc un artiste très célèbre, monsieur Kizito Mihigo, qui est en prison maintenant au Rwanda. Donc c'est la chanson qui essayait de réconcilier les Rwandais et les Congolais. Donc vous venez d'écouter le discours de Mukwege, vous venez d'écouter ou bien de suivre les applaudissements des Européens, donc les députés européens, qui applaudissaient Mukwege quand il a pris le prix Sakharov 2014. Alors là, ce n'est pas fini, parce que Mukwege a expliqué profondément pour des raisons qui ont poussé qu'il soit choisi comme quelqu'un qui doit avoir ce prix de Sakharov 2014. Donc, avec une interview des journalistes de Euro News, vous allez écouter des réponses et des questions et des réponses de monsieur Dr Mukwege, l'entretien qu'il a eu avec ses journalistes de Euro News. Donc, à ce moment-là, vous allez suivre.
Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant, il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain.
Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.
L'intimité mutilée des femmes de la République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege est un gynécologue spécialisé par la force des choses dans la chirurgie réparatrice. Le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Bruxelles à l'hôpital Saint-Pierre, un établissement solidaire de sa mission médicale et éthique.
Denis Mukwege, merci d'être avec nous. Ce prix Sakharov, c'est loin d'être la première distinction que vous recevez. Beaucoup d'autres l'ont précédé. Mais à quoi est-ce qu'ils servent ces prix, ces médailles, quand, comme vous, on est confronté quotidiennement à ce que l'homme peut faire de pire ?
Nous avons besoin de cette solidarité des États européens pour combattre un mal qu'on a vu venir au Congo. Mais aujourd'hui, le viol avec violence sur les femmes en période de conflit a tendance à se généraliser. Et je pense que c'est extrêmement dangereux d'utiliser cette arme qui est une arme qui détruit notre humanité commune.
Plus de 40 000 femmes et fillettes ont été soignées dans votre hôpital depuis que vous l'avez ouvert, il y a 15 ans. De quoi sont-elles victimes ?
Ce sont des femmes qui ont été violées, souvent en public, devant leur mari, devant leurs enfants. Mais après, ce viol qui est collectif, ça s'est fait suivre par des tortures qui portent sur l'appareil génital. Et les femmes qui viennent nous voir, c'est puisqu'en fait, elles ont des blessures graves au niveau de l'appareil génital.
Et ces actes sont parfois commis avec un sadisme surréaliste, avec des pieux, des tessons de bouteilles, des canons de fusil. Qui commet ces atrocités et pourquoi ?
Malheureusement, au Congo, nous avons, dans sa partie orientale, il y a beaucoup de groupes armés qui viennent du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda. Et à ces groupes armés s'associent également de jeunes qu'on appelle des Maïmaï, qui sont des groupes armés locaux, mais qui subissent tous un lavage des cerveaux pour détruire. Et en fait, ils détruisent les communautés pour les faire partir de leur terre et occuper ces terres et les exploiter.
Alors, vous venez de parler du Kivu, c'est cette région de l'est de la République démocratique du Congo où sévit la violence depuis plus de 20 ans. Il y a des bandes armées qui s'affrontent pour contrôler des parcelles, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des richesses naturelles sur ces parcelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces richesses et quel est le lien avec le drame des femmes du Kivu ?
En fait, cette partie du Congo est très riche en minerais stratégiques, spécialement le coltan, le cassiterite, et ces minerais sont utilisés dans tous les gadgets électroniques qui sont très demandés. Et de ce fait, en fait, ces bandes armées, lorsqu'ils occupent les territoires, ils deviennent propriétaires non seulement du sol, mais du sous-sol qu'ils exploitent à leur gré. Et je peux dire que cette façon de détruire en fait la femme, s'attaquer à l'appareil génital de la femme et le faire de façon spectaculaire en public devant tout le monde, c'est une façon de terroriser les communautés.
Et l'autorité de l'État dans tout ça, il y a quand même l'armée qui est sur place, il y a une force des Nations Unies qui compte plus de 20 000 hommes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous complices ?
Ce que nous pouvons constater, c'est que 12 ans après la signature des accords de paix, le gouvernement n'a jamais eu le contrôle en fait de ces territoires. Ces groupes armés tuent, violent, détruisent, alors que l'armée nationale est supposée protéger la population, mais cette protection, les femmes et les enfants attendent toujours. La présence des Nations Unies, j'ai toujours pensé que les Nations Unies peuvent aider à construire la paix, mais il sera très très difficile de mettre un soldat des Nations Unies derrière chaque femme ou chaque bébé, puisque ces viols concernent même les bébés.
Mais est-ce que les auteurs de ces agressions sont jugés ? Est-ce qu'ils sont poursuivis ? Est-ce qu'il y a une justice au Kivu ?
Malheureusement, je dois dire qu'il y a une impunité totale.
Certains, ou plutôt certaines, parce que ce sont juste surtout des femmes, appellent à la création d'un tribunal pénal international pour l'Est du Congo, pour en finir avec cette impunité. Est-ce que vous soutenez cette demande ?
Non seulement je soutiens, mais j'ai même signé une pétition en faveur d'un tribunal pénal international pour le Congo. Parce qu'on parle des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, on ne peut pas continuer à dire des chiffres comme ça sans pouvoir amorcer un processus qui permet à ce que la vérité soit connue et que la justice soit faite. Le monde aujourd'hui peut tracer une ligne rouge pour dire, dans les conflits armés, plus jamais utiliser les femmes comme champ de bataille. Et si quelqu'un le faisait, qu'il soit mis au banc de l'humanité.
Vous avez vous-même été victime d'une tentative d'assassinat, c'était il y a 2 ans chez vous. Suite à ça, vous vous êtes exilé en Belgique, mais au bout de 2 mois, vous avez décidé de rentrer et de rester. Même si vous avez 5 enfants même si vous continuez à recevoir des menaces, vous ne concevez pas la vie ailleurs qu'au Kivu ?
Les femmes congolaises se sont mobilisées. Elles ont d'abord commencé par écrire à toutes les autorités, depuis le secrétaire général des Nations Unies, le président de la République, en demandant ce que je puisse retourner et que s'ils ne peuvent pas assurer ma sécurité, elles vont elles-mêmes assurer ma sécurité, mais elles veulent absolument que je retourne au Congo. Jusque là, je m'étais dit, bon ben, ça c'est peut-être l'émotion. Mais un mois après, quand elles ont vu qu'il n'y avait pas de réaction, ces femmes ont commencé à s'organiser et chaque semaine, elles venaient avec des produits de leur récolte qu'elles vendaient à l'hôpital pour qu'ils payent mon billet retour. Et là, j'étais très touché parce que je m'étais dit, mais c'est quelle force! Ce sont des femmes qui vivent avec moins d'un dollar par jour, mais qui sont capables de se mobiliser pour que je puisse retourner. Et là, vraiment, quand j'ai mis dans la balance, je crois qu'elles avaient pesé lourd, puisque je m'étais dit, de toute façon, ma vie seule ne vaut pas plus que la vie de ces milliers de femmes. Donc, j'ai pris la décision de retourner.
Mais alors, pourquoi ne pas aller au bout de votre engagement et ne pas vous consacrer réellement à la politique? Parce que tant que ce combat politique ne sera pas gagné, les victimes continueront d'affluer dans votre hôpital.
Malheureusement, effectivement, c'est que je vis au bloc opératoire quand je vois les bébés blessés et dans cet état. Effectivement, ça révolte, ça me révolte. Et je me dis, ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai décidé de dénoncer. Mais entre dénoncer et jouer un rôle politique, il y a un chemin à faire et on n'y est pas encore.
Une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous fait garder le sourire?
Ce sont les femmes. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu que, en soignant une patiente, je suis moi-même désespéré. Je me dis, mais comment elle pourra se remettre debout? Mais ces femmes, elles ne se mettent jamais debout pour elles-mêmes, mais elles se mettent debout pour leurs enfants, pour leur famille. Et je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre auprès de ces femmes.
Denis Mukwege, prix Sakharov 2014, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci.
Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie, venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter.
L'affaire Ferguson, triste mémoire de la société américaine. L'abandon de poursuite à l'encontre du policier blanc qui a tué un jeune noir de 18 ans à Ferguson en août dernier suscite une vague d'émotion et de colère à travers les États-Unis. La décision a été prise par un grand jury populaire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de justice? La police a-t-elle un problème avec la communauté afro-américaine? La société américaine était raciste. Donc, toutes ces réponses, vous allez les trouver dans un entretien, dans une émission qui a été préparée par la journaliste Pauline Herman de la télévision internationale France 24. Dans un instant, vous allez suivre cette émission et vous allez écouter et essayer de voir, de bien suivre les réponses à ces questions que je viens de poser.
Keep talking. is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. On that keep tight, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, if the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row.
Allons-nous assister à une nouvelle journée d'émeute à Ferguson? L'abandon des poursuites contre un policier blanc qui a tué un jeune noir de 18 ans en août dernier a suscité une vague de colère à travers les États-Unis. Comment un jury en est-il arrivé à abandonner les poursuites? La police a-t-elle un problème avec la communauté afro-américaine? La société américaine est-elle raciste? Voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. En direct de Washington, Caroline Fredrickson, bonsoir. Vous êtes présidente de l'American bonsoir. Constitution Society, qui est une ONG pour la défense des droits de l'homme. Et puis avec nous en plateau à Paris, Hélène Kunst, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des démocrates Abroad, oui. Vous soutenez le président Barack Obama et vous êtes d'ailleurs animatrice du blog Obama à la carte. Oui. Caroline Fredrickson, tout d'abord, est-ce que vous avez été choquée par cette décision de ce grand jury? L'avocat de la famille de Michael Brown dénonce ce soir une décision injuste.
Non, je n'étais pas choquée. Mais c'est vraiment, c'est très troublant parce que ça passe presque toujours quand il y a des occurrences de violence de policiers contre les jeunes hommes, surtout noirs, qui n'ont pas d'armes. Il n'y a presque jamais des poursuites et c'est pour ça que c'est troublant.
Ouais, donc vous considérez quand même que, voilà, troublant en tout cas, vous ne dites pas le mot injuste, mais troublant. Hélène Kunst, vous trouvez ça troublant comme Caroline Fredrickson, vous trouvez ça injuste, vous avez le sentiment d'une justice à deux vitesses aux États-Unis?
Je pense que la justice à deux vitesses est largement reconnue par tous les camps et c'est cette justice qui doit évoluer. Tout à l'heure, vous avez demandé si les États-Unis, si c'est encore raciste. C'est beaucoup moins raciste qu'avant. Mais d'un coup de baguette magique, l'élection de Barack Obama n'a pas pu mettre fin au racisme qui est extrêmement enraciné, surtout dans un État comme le Missouri qui fait la frontière entre le Nord et le Sud, je dirais un peu plus qu'au Sud. Donc, je veux dire, personne n'est étonné, mais on est tous très déçus.
On va justement écouter, si vous le voulez bien, l'avocat de la famille de Michael Brown. Publicly.
Il faut le dire, pour la famille de Michael Brown, le processus judiciaire est corrompu. Soyons honnêtes, nous savons tous que le procureur a un rapport étroit avec la police locale, avec le policier qui a comparu devant le tribunal. Nous connaissions déjà le verdict avant qu'il soit rendu, et nous avions raison.
A young person from our community. Caroline Fredrickson, le processus judiciaire était corrompu. Vous pensez que tout comme, de la même manière que l'avocat de la famille de Michael Brown qu'on vient d'écouter?
Non, je veux dire pas qu'il est corrompu, mais je veux dire que le système en total, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes que les procureurs sont souvent élus aux États-Unis et c'est pour ça. Il faut parler des crimes et qu'est-ce qu'il fait contre le crime dans la communauté. Et c'est pour ça que c'est encore troublant, que le système a des problèmes avec des officiers de la loi qui sont élus, qui veut être réélu. Et pour ça, il y a des problèmes. Mais corrompu, je ne peux pas, je sais pas exactement parce que j'étais pas dans la chambre avec les jurés. Mais et je veux dire aussi que c'est surtout c'est un problème des États-Unis et pas seulement de Missouri ou Saint-Louis, mais partout il y a des problèmes avec qu'il n'y a pas de poursuite contre les policiers après qu'ils tuent et il n'y a pas des enquêtes, je pense, qui sont assez profondes pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans la société avec les polices, la police et les gens, surtout les Noirs.
Justement, Hélène Kuntz, comment expliquer que cette police soit aujourd'hui surarmée aux États-Unis? J'ai lu un dossier dans le quotidien français Le Monde. Je voyais quand même 500 véhicules blindés qui étaient notamment utilisés dans le sud des États-Unis, oui. Des casques, des kalachnikovs. Enfin, c'est quand même, on a l'impression en fait que ces policiers qui sont censés assurer la sécurité dans des villes partent faire la guerre en Afghanistan ou en Irak.
C'est vrai qu'il y a un appareil militaire qui est utilisé et non pas à une échelle. Vous voyez, une ville comme le St. Louis, qui est le plus proche de Ferguson, c'est à peine 300 000 habitants. C'est quand même pas Chicago avec 6 millions d'habitants. Et donc, c'est tout à fait étonnant. N'oublions pas tout de même que le Missouri, c'est une red state. Donc, comme dit Mme Fredrickson, c'est-à-dire que les élus sont tous républicains,
ouais.
Donc vraiment en guerre ouverte contre le président Obama. Et donc, ils vont... Il y a certainement une surenchère et un excès de zèle de la part des policiers. C'est vrai que tout de même, la plupart des sondages ont montré aujourd'hui...
Ah, vous pensez qu'il y a aussi une fracture politique?
C'est pas exactement correct.
Ah, vous n'êtes pas d'accord, Caroline Fredrickson, avec ce que vient de dire non, Hélène Kuntz, qui dit qu'il y a une fracture finalement politique aussi, que ce qui se passe dans les États, les États républicains, c'est pas la même chose que dans les États démocrates. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Missouri, c'est pas tout à fait républicain. C'est le gouverneur qui est un démocrate... et aussi un sénateur, Claire McCaskill. Alors, il y a deux des trois grands élus qui sont démocrates. Et c'est pour ça, pour cette raison que je dis que c'est un problème de système dans les États-Unis. Mais c'est le don des appareils militaires aux polices local, de gouvernement fédéral. Mais c'est aussi que nous avons des lois qui condamnent les jeunes qui ont un peu de drogue, qui font des petites bêtises, de passer beaucoup de temps en prison. Et ça change les communautés et ça fait des blessures aux familles et je pense que c'est un... On ne peut pas dire seulement que ce sont les États rouges où il y a beaucoup de républicains où ça c'est le problème, mais c'est vraiment partout.
Hélène Kuntz, justement que ce soit aussi la communauté noire qui soit la plus victime quand même des forces de l'ordre, c'est ce que disent en tout cas les études qui sont faites, hein.
Oui.
C'est d'abord la communauté noire, la communauté hispanique et ensuite la communauté blanche qui sont dans l'ordre,
oui.
La communauté noire est la plus grande victime, c'est celle qui paye le plus lourd tribut des forces de l'ordre.
Tout à
pourquoi
fait.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a une défiance des forces de l'ordre vis-à-vis de des Noirs?
Ben, c'est tout à fait historique. C'est notre héritage d'esclavage qui s'est achevé lors de la guerre de sécession il y a à peu près 150 ans maintenant, à peine 150 ans. Donc c'est vrai que quelque part dans une échelle humaine, ça reste relativement frais. Je pense que c'est pas trop dire, et je pèse mes mots, de dire qu'il y a un génocide qui s'opère envers des hommes noirs aux États-Unis, que ce soit à travers des homicides, des meurtres, comme Madame vient de dire, la surincarcération. Et les peines beaucoup trop longues. Donc, l'ensemble fait que c'est effectivement une partie de la population qui est particulièrement visée. Et c'est très difficile, visiblement. À chaque fois, les policiers sont réconfortés dans leur excès de zèle. Donc, je crains fort que ce jeune homme ne sera pas le dernier dans une suite dans d'autres villes.
Caroline Fredrickson, comment vous expliquez que ce soit la communauté noire qui soit le plus visée par ces violences, que c'est les Noirs qui, en majorité, tombent sous les balles des policiers blancs? Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ce rapport entre les forces de l'ordre et cette communauté et cette défiance qu'il y a visiblement?
Oui, il faut se souvenir que les Noirs sont moins riches, alors ils habitent les banlieues.
Mais c'est vrai pour les Hispaniques aussi.
Oui, mais aussi pour eux. Mais il y a quand même plus de Noirs toujours aux États-Unis. Et c'est vrai que Madame a dit que nous avons cette histoire d'esclavage, de racisme. On a passé des lois qui condamnent, comme j'ai dit, surtout les jeunes à passer beaucoup de temps en prison pour des petites bêtises. Et c'est le système. Il y a plus de police dans les quartiers où les Noirs ou les Hispaniques habitent. Alors, ils sont plus vite à chercher de trouver des drogues ou bien stop and frisk. C'est ce qui s'est passé à New York. Il y a beaucoup plus de Noirs et Hispaniques qui sont arrêtés par les policiers pour savoir s'il y a des drogues dans les poches. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de poursuites, parce qu'ils sont plus d'essayer de trouver des choses comme ça et les procureurs sont plus vite à essayer de suivre ces poursuites. Et la fin qu'il y a beaucoup plus de Noirs et Hispaniques dans la prison pour les mêmes crimes. Il y a plus de Blancs qui utilisent les drogues, mais il y a beaucoup plus de Noirs dans la prison.
Alors, il y a cette histoire terrible quand même, parce qu'on parle beaucoup de Ferguson là, mais c'est quand même l'histoire de ce petit garçon quand même de 12 ans, Tamir Rice, quand même, on le rappelle à nos téléspectateurs, peut-être qu'ils n'ont pas suivi cette histoire, mais qui est juste, qui paraît surréaliste, qui est dans une aire de jeu à Cleveland, dans l'Ohio, qui joue avec un pistolet qui est un pistolet en plastique, et qui se fait abattre par un policier blanc. Là encore, c'est symptomatique quand même. Est-ce que si ça avait été un enfant blanc, est-ce que la même chose se serait produite?
On n'en a aucun cas. Donc, quelque part, ça parle tout seul. Mais c'est vrai que ce qu'il faut rappeler dans cette affaire, c'est que la personne qui a appelé les secours, un homme blanc, a bien précisé, je soupçonne bien que c'est un jouet. Donc, le problème avec la police, il faut qu'ils aient des meilleures consignes pour tirer dans le pied, dans la jambe, et ne pas viser systématiquement les organes vitaux quand même.
Et Hélène Kunst, il n'y a pas aussi une autre question qui se pose, et c'est le cas notamment à Ferguson, où les policiers sont majoritairement blancs, en très très grande majorité, je crois à plus de 90%. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas introduire, pardonnez-moi, j'aime pas ce terme-là, mais quand même des quotas, peut-être, chez les forces de l'ordre américaines, où il y ait plus de Noirs parmi les forces de l'ordre?
Tout à fait, comme Madame a dit tout à l'heure.
Peut-être partie de ces réformes à faire.
En fait, ça s'est fait, ça s'est généralisé dans le New York, Chicago, Los Angeles.
Ah, c'est le cas, il y a des quotas.
Peut-être pas les quotas, et nous, on ne prend pas les quotas de manière péjorative, donc c'est tout à fait culturel. Mais c'est vrai qu'il y avait des recrutements plus larges, il y avait des sensibilisations, il y avait énormément d'efforts de faire en sorte que tendre la main aux communautés. Vous savez, on cherche tout de même, et le président Obama a cherché à le rappeler, qu'il faut résoudre tous ces problèmes dans les tribunaux et non pas dans la rue. Donc voilà.
Mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il y a certains États, certaines villes, Chicago, New York, Washington, où il y a plus de policiers noirs au sein de la police dans les États du Sud aujourd'hui.
Ah, ouais, logiquement.
Ça n'a évidemment rien à voir. Donc là, il y a peut-être une réforme à se faire de ce côté-là, Caroline Fredrickson.
C'est que ça, je me permets de dire que vous avez quand même l'État du Sud.
Ce sont les États du Sud quand même le problème. Caroline Fredrickson, vous avez employé tout à l'heure le terme de réforme. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui?
Oui, comme Madame a dit, il faut sensibiliser la police maintenant. Il faut faire des efforts de recruter des candidats qui sont noirs, qui sont des femmes, qui sont des asiatiques, des hispaniques, pour que la police doit être comme la société. Et c'est pour ça qu'on veut penser qu'il y a de la justice dans la société. Mais quand la police et les juges sont toujours, et les procureurs sont toujours blancs et des hommes. C'est difficile à comprendre qu'il y a de la justice. Alors, ce sont des mesures qu'on peut prendre tout de suite d'essayer de mettre dans la police maintenant, tout de suite, des gens, des autres races, des Noirs.
Oui, mais alors justement, la question qui se pose aussi, Hélène Kuhn, c'est comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de Noirs parmi les forces de l'ordre? Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a des Noirs qui veulent être policiers aussi.
Je pense qu'il y a, quand même tout plein de policiers noirs, hein, tout de même, malgré tout.
Sauf dans les États du Sud.
Si je peux me permettre, c'est vrai que pour compléter ce que madame a dit, ce qui a vraiment pêché dans ce cas, c'est qu'il n'y avait pas de vidéo. On n'avait pas la chance d'avoir une vidéo comme Rodney King en 92, où on était face à un autre civil comme avec Trayvon Martin. Donc, une autre réelle solution, c'est d'avoir des caméras miniaturisées sur les uniformes des policiers. Il y a quelques field tests.
Qui le font.
Et tout d'un coup, ça descend de 50% la violence policière. Donc ça, c'est une réelle solution. Et à mon avis, ça peut être déployé à grande échelle sur tout le territoire américain.
Je vous entends acquiescer à ça, Caroline Fredrickson. Je vous ai entendu acquiescer à ce que disait Hélène Kuhns sur l'idée justement d'avoir des vidéos sur les uniformes des policiers, hein, et que ça faisait baisser. Apparemment, il y avait des tests qui étaient faits dans certaines villes et que ça faisait baisser la violence.
Bien sûr, parce que quand on sait qu'il peut être des poursuites avec les vidéos et pas seulement avec des rapports des gens qui étaient là, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on n'a pas utilisé trop de force ou de violence contre un suspect. Mm-hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Hélène Kuhns, vous êtes un soutien de Barack Obama. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui l'amertume de la communauté noire qui, évidemment, était très heureuse de l'élection de ce premier président noir des États-Unis? Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui un peu quand même déçus? Finalement, qu'est-ce qu'il a fait Barack Obama pour eux? On le voit là avec ses violences policières, à part appeler au calme. Oui. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire plus?
Je pense que pour être légitime dans son rôle actuel, hein, il ne peut pas faire plus. Il est le président de tous les Américains. Il ne peut pas, lui, prendre parti pour une communauté comme une autre. D'une part, il a aussi toute la justice qui est sous sa responsabilité. Il ne peut pas non plus montrer de doigt. Je trouve que quand il a dit que Trayvon Martin aurait pu être mon fils, c'était énorme. Quand il dit qu'il compatisse avec les parents de ce jeune homme, il va le plus loin possible avec sa casquette de président. Il ne peut pas pour l'instant faire plus, et il a quand même fait preuve de beaucoup d'humanité. Il n'est pas attendu par la communauté noire, en tout cas, pour intervenir dans ce cas. Notre système fédéral ne permet pas à un président d'intervenir en état local.
Caroline Fredrickson, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hélène Kuhns? Finalement, ce n'est pas le rôle de Barack Obama. Il est le président de tous les Américains.
Oui, bien sûr. Mais il a aussi il joue un rôle très important pour les jeunes. Parce qu'il est le président et aussi notre procureur général, Eric Holder. Mm-hmm. Ils sont les deux noirs. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces modèles. Mais il y a aussi, ce n'est pas tout à fait correct de dire qu'il n'y a pas de rôle fédéral dans des procès criminels locaux. Parce qu'il y aura, il y a maintenant une enquête fédérale qui examine ce qui s'est passé à Ferguson.
Et ça veut dire, Caroline Fredrickson, justement là-dessus, cette enquête fédérale, est-ce qu'il pourra, ce policier, être poursuivi au terme de cette enquête fédérale? Est-ce que c'est encore possible?
Peut-être, oui. Mais c'est surtout de savoir comment agit la police, est-ce qu'il faut les entraîner, les donner des nouvelles mesures pour employer comme ces caméras, ces
appareils. Voilà, ça permettra peut-être de réformer le système, en tout cas, cette enquête fédérale.
Oui,
un tout dernier
ça.
Mot, Hélène Koontz, mais vraiment un mot. Oui. Est-ce que vous pensez que ces émeutes de Ferguson, est-ce qu'on va assister justement à un tournant, que ça va peut-être changer un peu les choses, qu'il va y avoir un réveil de la société américaine?
Visiblement, ça a déjà pris, parce qu'il y avait des manifestations à New York, comme un peu partout aux États-Unis, donc ça a été repris. Je pense qu'on ne va pas le laisser tomber. Je pense qu'on va redoubler de vigilance sur ce genre de cas qui avant passé aux faits divers.
Merci beaucoup. Merci Hélène Koontz d'être venue sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Caroline Fredrickson d'avoir été avec nous en direct de Washington.
Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gays no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given life and time. Counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know.
Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Impara, nous touchons à la fin de notre émission d'une heure. Nous vous remercions d'avoir bien suivre notre émission et d'être toujours à l'écoute de Radio Impara. Donc nous vous invitons une fois la semaine, soit mercredi, soit samedi, une émission en langue française. Nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt.
To hold you, Nikita, I need you so. Nikita.